Ce métier est très riche et très divers et a beaucoup d'aspects différents qu'on n'envisage pas. Ce n'est pas que habiller des gens. Moi, tout de suite, je suis en train de faire un spectacle qui est en solo et qui part de mon expérience. Mais l'envie de ces interviews, c'est aussi de vous rencontrer, de vous donner cet endroit pour vous exprimer, puis pour que moi aussi, je me reconnaisse peut-être un peu et que je puisse faire des propositions assez fidèles à ce qu'on est toutes.
La Servante, solo pour une habilleuse, le podcast. Carole est allée à la rencontre de Stéphanie, habilleuse permanente à la Comédie de Clermont-Ferrand. Elle y raconte son histoire, son parcours et ce choix d'un métier vécu dans la durée. Au fil de la conversation, Stéphanie parle du quotidien, de l'ancrage et du lien étroit qui se crée avec les équipes et les spectacles. Un échange qui dessine le portrait d'une professionnelle engagée, attachée à la continuité et au travail collectif.
Donc dans cette maison, je suis habilleuse principale, permanente, ce qui représente un peu un poste de régisseur, mais en costume, ce qui est assez rare comme poste permanent au sein d'une scène nationale. Donc j'ai beaucoup de chance, déjà.
Je vais déjà rebondir. Pourquoi tu dis ce qui représente un poste de régisseur ? Ce n'est pas un poste de régisseur ?
Parce que l'intitulé est habilleuse principale, alors que mes collègues s'appellent régisseurs principaux. Sauf qu'un poste de régisseur, le travail est le même et un travail de préparation, de budget. C'est ce que je fais. Mais voilà. En fait, dans la nomenclature, ce poste, quoi, ils ont considéré que ce poste n'existe pas. Pas vraiment. Alors que moi, je l'ai fait en tournée où je faisais de la régie habillage.
Et donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu les différentes tâches que tu fais ici en tant que
habilleuse principale.
Habilleuse principale.
En fait, je vais reprendre surtout sur la fin de, principalement la fin de saison. On travaille un peu comme la mode, c'est-à-dire une saison à deux saisons avant. Donc on a des programmations, on connaît des programmations très tôt. Notamment là, on commence déjà à travailler en termes de budget, de préparation sur la programmation de l'année prochaine, chacun sur son corps de métier, pour pouvoir construire et aider à construire cette programmation. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la part de la directrice, une envie, mais elle doit passer par le service technique pour savoir combien ça va coûter et si cette programmation est réalisable financièrement. Mmh. Et peut s'articuler de la manière en jour, en date, comme elle l'a imaginé. Donc il y a un vrai travail de confiance là-dessus. On met pas des spectacles non plus. On va pas surestimer le coût d'un spectacle parce qu'on a aussi envie que ça se fasse. Mais il doit y avoir une réalité derrière. Voilà. Donc ça veut dire chacun va estimer le nombre au niveau du personnel, d'intermittents, au niveau des locations, au niveau des budgets. À mon niveau, ça va être, oui, le personnel, mais ça va aller jusque là. On sait qu'il y aura du pressing, on sait qu'il y aura beaucoup de réparations, beaucoup d'habillage, voilà.
Tu évalues par rapport à chaque spectacle les besoins qu'il va y avoir.
Oui.
Parce que tu n'as pas toujours les informations.
Alors ça, c'est vraiment un travail, c'est pour ça que je dis en fin de saison, où on commence à avoir déjà des fiches techniques qui nous permettent d'affiner ce budget, qui sont pas complètes et surtout au niveau du costume, très rarement, à part des très grosses maisons, des très gros théâtres qui, eux, ont l'habitude. Mais beaucoup de compagnies oublient le costume, même s'il y a toujours une phrase qui fait comprendre qu'en fait, il va falloir de l'entretien, de l'habillage, mais c'est pas explicite. Maintenant, on voit le plus souvent dans les fiches techniques la partie catering, c'est-à-dire qu'en titre, il y a habillage et le sous-titre est catering. Et par contre, on n'a aucun détail sur le nombre de costumes, l'entretien, est-ce qu'il va y avoir des changements au plateau. Là, il faut beaucoup de semaines et de mois avant d'avoir cette information, qui est le travail le plus compliqué, en fait. Et après, une fois qu'on a toutes ces informations, c'est de constituer des équipes d'habilleurs, d'habilleuses, déjà qui vont correspondre au spectacle, parce que chacun a sa manière de travailler, d'aborder voilà, les spectacles. Moi, je prends beaucoup en compte le statut d'intermittente pour l'avoir été très longtemps. Donc, voilà, je leur délègue souvent à l'équipe ce besoin d'heures qu'elles me font remonter et je mets sur la programmation, en tout cas en priorité, celles qui ont besoin de finaliser leur statut et celles qui ont un petit peu plus le temps. Moi, j'ai eu une petite anecdote. Il y a plusieurs années, j'étais en tournée avec une comédienne un peu connue dans le milieu du théâtre, pas du grand public, mais du théâtre, qui, je ne le savais pas, était enceinte, tout début. Et qui avait, c'était un spectacle, c'était La Mouette, donc un costume historique avec un corset. C'était une comédienne avec qui je travaillais depuis très longtemps sur différents spectacles du metteur en scène. Donc on se connaissait très bien. Et moi, tous les jours, je serrais le corset pour qu'elle puisse rentrer dans la robe. Et qui, surtout, son rôle, c'était quand même La Mouette, donc une jeune fille, très jeune, robe blanche, immaculée. Et je serrais de plus en plus fort parce que je ne comprenais pas pourquoi elle ne rentrait plus dans sa robe avec... Et je commençais même à m'agacer avec elle et à me dire qu'elle faisait exprès de gonfler son ventre pour que je ne puisse pas serrer. Et un jour, on ne s'est pas fâché, mais elle m'a dit « Je veux plus que tu me serres comme ça ». Et moi, je lui ai dit « Oui, mais tu ne rentres plus dans ta robe. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, elle a été obligée de me dire « En fait, je suis enceinte. Je veux que personne ne le sache, ni mes collègues comédiens, encore moins le metteur en scène, la production. En gros, bon, bah, ça y est, tu es au courant, tu le sais. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et du coup, j'ai, sur toute la tournée, j'ai adapté sa robe au fur et à mesure, en cachette. Et personne ne l'a su jusqu'à la fin de la tournée. Et pour que ça ne se voit pas sur scène.
Mais dans notre rapport à eux aussi, il y a quelque chose...
On les materne. Mais c'est nous souvent qui devançons. Ils aiment bien être maternés, mais moi j'entends souvent des gens qui disent oh, « Les artistes, ils sont chiants, faut les materner, ils sont capricieux. » En fait, sincèrement, je trouve pas tant que ça. Nous, on devance leurs besoins, beaucoup. Après, devancer leurs besoins, c'est aussi avoir la tranquillité. Moi, je sais que quand, et c'est ce que j'explique souvent aux stagiaires ou à des habilleuses que je ne connais pas, plus on va mettre en place, avant qu'ils arrivent, leur loge, leur costume, leur catering, plus on aura la paix après. En fait, on ne va rien nous demander. Ils vont se sentir accueillis, bien. Ils vont sentir qu'il y a des gens derrière qui vont s'occuper d'eux. Donc... c'est aussi une tactique.
On a aussi une mission de répartition des loges. Des fois, on a des indications, des fois, on n'en a pas.
Ça, c'est l'exercice le plus difficile d'une habilleuse. C'est-à-dire que si on a une habilleuse qui est en tournée, qui connaît bien ses comédiens. Elle sait très bien, déjà un qui est plus star que l'autre, ou qui a besoin de plus de repos, donc d'être seul, qui a plus de texte et qui doit se concentrer plus que les autres. Mais ça arrive aussi que lors d'une tournée, ce qui est un peu des fois une colonie de vacances, des gens qui s'entendaient très bien au départ ne s'entendent plus du tout. Et nous, quand on accueille un spectacle, ben ça, on ne le sait pas. Que, voilà, ils ne veulent même plus, à part le plateau, même plus se croiser dans les couloirs. Ce qui arrive. Hein. Donc, en fait, c'est une vraie enquête. Moi, je sais que quand j'ai des spectacles, je vais même sur Google pour voir les comédiens. D'abord, leur âge, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, quel rôle ils ont dans le spectacle, pour essayer de répartir. Si on avait suffisamment de loges pour en donner une à chacun, le problème serait réglé, ce qui n'est pas toujours possible. Donc des fois, on est obligé de mettre certains artistes ensemble. Et là, il ne faut pas se planter, en fait.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ?
Alors moi, je suis issue d'une famille artiste et du cinéma. J'ai un grand-père qui était photographe, passionné par le cirque. J'ai rencontré beaucoup d'artistes très jeunes. Et pour moi, le spectacle, le cinéma, était plus un mode de vie qu'un métier. Mon père a été intermittent pendant très longtemps, donc avec les angoisses des contrats, pas de contrat, à manger des pâtes, à manger, voilà. Donc pendant très longtemps, je savais et je voulais travailler dans ce milieu-là. J'ai su très tôt que c'est ça que je voulais faire. Par contre, pendant très longtemps, je n'ai pas su quel métier je voulais faire. Donc le premier que j'ai voulu faire a été comédienne. Donc j'ai eu la chance, j'avais la chance pour gagner adolescente mon argent de poche, au lieu d'aller récolter les maïs, je faisais de la figuration. Donc du coup très tôt, je me suis retrouvée sur des plateaux de cinéma, en costume. Et très vite, je me suis rendu compte que comédienne, c'était pas du tout mon truc. Être devant une caméra, c'était pas ça. Mais petit à petit, je me rendais compte que l'étape costume, maquillage, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais sans vraiment que ce soit très clair. Après, très tôt, j'ai demandé une machine à coudre. Je montais très souvent à Paris, donc... mon argent de poche, le gardais pour aller chez Tati, pour aller au marché Saint-Pierre, acheter du tissu, du maquillage, faire des spectacles dans mon village. Je faisais payer l'entrée pour réacheter. Voilà. Donc, mais je savais pas que ce serait ça. Voilà, c'était plus l'ambiance de ma famille, en fait, qui était... Et j'ai eu la chance, à partir de l'adolescence, du coup, de chercher les corps de métier. Donc de faire un stage de script sur un tournage, de faire un stage de monteuse, de régie. Et plus j'avançais, plus je me disais, tout ça, c'est pas ça. Enfermé dans un salon noir, ça me va pas, je suis trop hyperactive. Et c'est un jour, j'ai rencontré, j'avais 16 ans, une costumière qui est venue chez mes parents, et j'habitais à Avignon. Donc j'étais déjà, il y avait le festival d'Avignon, et j'habitais surtout dans un appartement qui avait une terrasse et qui donnait sur une salle du festival d'Avignon, où je voyais toutes les répétitions, les spectacles. Et cette costumière me parle de son métier, et me dit, écoute, on était fin juillet, me dit, écoute, j'ai un tournage qui démarre à Paris, là au mois d'août. Si tu veux, tu viens avec moi en stage et puis tu verras si ce métier-là te plaît. Donc je suis partie, je n'ai plus jamais voulu revenir à Avignon, au lycée. mes parents ont fait des pieds et des mains. J'ai fini par revenir en me disant, on te demande juste de passer ton bac, ce que j'ai fait. Ils ne m'ont jamais demandé de l'avoir, hein, et ça c'était bien enregistré. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, le cinéma, moi, je connais bien, puisque c'est dans ma famille. Mais par contre, j'ai du théâtre sous les yeux. Et ça, en fait, depuis toujours, je me suis rendu compte que les textes de théâtre, c'est ce que je préférais lire, que ce que je voyais, les répétitions, les spectacles de ma terrasse. C'est ce que je préférais, le cinéma, je trouvais ça, voilà, c'était bien, mais on attendait trop, on n'était pas, voilà, il n'y avait pas trop d'enjeux. Et j'ai demandé assez rapidement un stage après au Festival d'Avignon. Et là, je me suis retrouvée sur des spectacles qui fait partie de l'histoire du Festival d'Avignon, de ma génération, qui a été Le Soulier de Satin d'Antoine Vitez. Un spectacle qui durait 9 heures, j'avais 17 ans, avec des comédiens très connus. Il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas. Mais un rapport avec moi qui a été, ce qui a correspondu à mon métier, c'est-à-dire qu'ils allaient me voir en sortie de scène, dont Vitez, qui jouait et qui un jour m'est tombé dans les bras en sortie de scène en me disant... J'ai eu un trac, j'y arrivais plus, qui était dans limite en pleurs, alors que j'avais 17 ans, et j'ai dû réconforter voilà, ce grand monsieur avec le scénographe qui était Yanis Kokos, qui me fait son petit dessin que j'ai encore à la maison pour me remercier de ma... Voilà, tout ça qui me tombe dessus, en fait, et qui me dit, mais c'est une révélation, je veux toujours faire ça, moi. Voilà. Et ça a démarré comme ça.
Je sais pas, bon, ça se fait moins quand même, mais y a quand même cette tradition de base de la couturière, tu sais, vraiment.
Oui.
Il y a plein de maisons qui travaillent à l'ancienne où c'est comme ça, les costumes arrivent l'avant-général, quoi. Le soir de la couturière, je trouve ça dingue.
Moi qui ai commencé à travailler comme ça, ça faisait partie des traditions,
ouais.
Qui sont aussi plutôt alors, excitantes après, pas pendant, parce que pendant, on est vraiment dans un état de... Mais c'est aussi un moment marqué, c'est-à-dire de reconnaissance aussi. Les costumes arrivent. Et en fait, tout le monde les attend. Les comédiens, le metteur en scène, le technicien lumière, parce qu'il faut les éclairer. Le régisseur son, s'il y a des micros HF, ça ne rentre pas. Et quand on change de costume, on fait comment ? Voilà. Donc c'est quand même... À ce moment-là, c'était une reconnaissance et ça n'existe plus trop, ce moment d'arrivée des costumes.
En fait, ça, c'est exactement, on travaille dans la même condition. Sur la fin, jusqu'au bout, tout peut changer et on peut se retrouver dans cet état de panique la veille pour le lendemain à devoir tout refaire. Mais on n'a plus la tradition de la couturière.
Oui.
C'est ça que je retiens.
Je dirais que les costumes qui étaient fabriqués en atelier arrivaient à une date limite, en fait, l'atelier qui les fabriquait avait une date de livraison qui correspondait à un moment du travail de création au plateau bien déterminé.
Donc c'était pris en considération.
C'était des étapes normales. Ça arrivait au bout, après on continuait à les adapter. Mais tout le monde adaptait, hein, la lumière, le son, la mise en scène, les comédiens. Mais il y avait quand même une date limite de livraison. Et qui était cette date-là, reconnue, couturière.
Maintenant, on se met dans les trous quand on a le temps.
Oui.
Quand on nous donne du temps au plateau. Pas tout le temps, mais...
Non.
Souvent, quand même, il faut jouer un peu des...
Oui, et même la mise en place des costumes. Quand tu regardes les plannings techniques... c'est bien écrit, réglage lumière, réglage son entre midi et deux à l'interservice. Répétition générale. Alors là, répétition générale, en fait, tous les costumes sont déjà au plateau. Mais à aucun moment, et de moins en moins, est marquée la mise des costumes. Donc ça veut dire qu'on travaille dans le noir. Alors, quand on peut accéder au plateau, quand enfin le décor est fini d'être monté, que les câbles sont passés, qu'on peut y accéder. On ne peut pas y aller à l'interson parce qu'ils font du son. On ne peut pas y aller au moment où ils font la lumière parce qu'on est dans le noir complet. Donc on le fait souvent sur nos pauses de travail, juste avant la répétition générale. Et c'est un saut dans le vide. Hein. C'est-à-dire qu'on a installé nos costumes et hop, on enchaîne direct avec notre conduite qui est à peine écrite. En plus, contrairement à nos collègues régisseurs, eux ont des casques dans lesquels ils ont des tops. Nous, on ne l'a pas. Donc le top, c'est nous qui nous le fabriquons. Et on est le seul corps de métier à ne pas l'avoir. À ne pas vouloir aussi ces casques, hein. Il faut le reconnaître. Et puis, dans nos mouvements, en fait, nous, on passe du sol à quatre pattes à sauter, en fait...
C'est top intuitif aussi, des fois.
Oui. Donc, c'est un top sur le visuel, sur la lumière, sur le son, sur la relation aussi avec le comédien, qui, juste avant, des fois, c'est même pas une demi-heure avant le démarrage du spectacle, hein, qui nous dit, au fait, à tel moment du spectacle... je sors à tel endroit, il faut que tu me rejoignes avec tel costume.
Ou un comédien en pause qui doit venir 5 minutes avant son entrée se changer au plateau. Si la veille il vient bien aux 5 minutes, il peut arriver aussi 10 minutes avant le lendemain parce qu'il a besoin d'être plus tôt dans son costume. Et là, il faut jongler, nous, parce que oui. Peut-être ça se cumule avec d'autres changements. Donc il faut arriver à jongler, à se dire d'accord, ok, je le prends en charge, mais est-ce que j'ai le temps et comment je fais ou...
Oui.
Ça, des fois, ça te... Mais on ne peut pas refuser un comédien d'être là plus tôt ou s'il est plus tard et que t'es... on essaie.
Parce qu'à un moment donné, le comédien est un être humain quand même, avant tout.
Il a des besoins.
Il aura des besoins vitaux. Il aura des besoins... Ben là, aujourd'hui, je ne suis pas en forme et je vais aller me fumer une cigarette. Donc, du coup, ça prendra plus de temps.
Mais voilà. Il faut arriver à répondre à ça sans mettre en péril les autres...
Oui.
Ce qui suit.
Et la mise en scène. C'est-à-dire que l'entrée d'un artiste avec son costume correspond à un top lumière, à un top son, à un changement de décor, un texte.
On a un peu les conduites des autres aussi, un peu dans la tête, finalement.
Ah ben, du coup, on a toutes les conduites très rapidement. La mise des costumes est aussi un moment très, très important. C'est pour ça que quand on n'a pas de temps pour le préparer, c'est là où, en fait, on est un peu en galère. Parce que tous nos changements sont préparés. On utilise beaucoup les chaises. Sur les chaises sont mis les vêtements dans l'ordre de...
Ils sont filés, oui.
C'est-à-dire que le premier élément de costume qui est mis sera celui qu'on met en dernier, dans l'ordre soit parce qu'on le tend à l'artiste, soit parce que l'artiste le prend lui-même. Donc, par exemple, ça va jusqu'au slip, à mettre l'étiquette dans un sens ou dans l'autre. Les chaussures, pareil. Et des fois, ça arrive qu'on soit plusieurs habilleuses sur un artiste, sur un changement qui est sur quelques secondes et dans le noir. Donc chacun, c'est comme une chorégraphie en fait, chacun, et l'artiste, heureusement pour nous, participe aussi à cette chorégraphie qu'on répète ensemble souvent en disant à l'artiste, bah, toi tu vas t'occuper du haut, tu commences à déboutonner parce que moi je m'occupe de tes chaussures, après toi tu prends ça. Moi, je descends le pantalon. Voilà, c'est une vraie chorégraphie. Mais la mise, du coup, si on a tout misé avant le spectacle ou à un moment de creux pendant le spectacle sur notre chaise ou sur le parti du plateau, même si on est dans le noir, en simplement prenant les éléments, sachant qu'ils sont dans le bon sens, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais parce qu'on est sur des secondes, en fait. Et le jeu, quoi, moi je sais que c'est un jeu que j'adore, mais la plupart des habilleuses adorent gagner ces secondes. C'est-à-dire que d'arriver à tel point qu'on en gagne, que le comédien peut même respirer avant d'aller sur scène ou boire un coup. C'est le but, en fait.
Ils mettent la servante ici ?
Jamais. Non. Je ne l'ai jamais vue.
Même à côté ?
Ça, là ?
Oui.
C'était avec l'ancien directeur, ou lui qui était d'une certaine génération et de tradition. Du coup, quand on a aménagé ce théâtre, lui, il m'a dit « Oh, ce serait bien qu'on ait une servante. Ben, » J'ai dit « Bah oui. » Donc, dans l'aménagement rapide de ce théâtre, on a acheté cette lampe pour faire office de servante dans un premier temps, en se disant au plateau, ils vont bien fabriquer une servante digne de ce nom. Ça n'a jamais été fait. Ce n'est plus dans la culture, en fait. Mais parce que cette culture, ils ne l'ont pas. Ils ne savent même pas ce que c'est, pas pourquoi c'est fait.
Pardon.
Coucou.
Je vous dérange ou pas?
Il est quelle heure? Ah, il est déjà 14 heures.
J'attends, dehors.
Non, on a encore...
Merci. C'est ta stagiaire ?
Oui.
Elle aurait pu assister, hein, ça
va
dire.
Je suis en train de le dire.
Va lui dire.
Punchette.
Oh non, j'avais pas gâté. Au contraire. On est en plus en parler de la servante. Bah, tu disais que c'était une tradition, du coup, qu'ils connaissaient pas les équipes techniques. C'est un truc qui leur racontait plus rien, la servante.
Ah non.
Comme
non.
La couturière, finalement.
Non.
Voilà.
En fait, on parlait d'une... Pas d'une certaine... Parce que du coup, quand on dit ça, on a l'impression d'être vieux. Mais de tradition, de théâtre, un peu comme ce qui était dit hier, expliqué par Marc. Oui. Mais dedans, en fait, une servante était une lumière qu'on posait sur le plateau, pas très forte, qui restait souvent toute la nuit, hein, d'ailleurs. Ce qui faisait une mesure de sécurité, mais si quelqu'un, comme les habilleuses, devait aller récupérer quelque chose, on avait un point de lumière.
Mmh. Ok, je connaissais pas du tout l'existence de ça.
Mais en fait, parce que certaines traditions disparaissent. Après, moi, je vois quand je retrouve des théâtres comme la semaine dernière, Théâtre de l'Odéon, qui sont des très grosses maisons, qui ont cette histoire du théâtre, on parle le même langage, en fait. On a la même manière de travailler, les mêmes protocoles, les mêmes étapes.
Et ce qui est marrant, c'est que cette servante qui n'a jamais été mise de substitution, tu l'as récupérée, tu l'as mis là dans l'atelier.
Ah ben oui.
Pourquoi ben oui? Toi, tu es
attachée. Parce
que
pour moi, c'est un symbole. Quoi, c'est un symbole? Pas qu'au niveau de l'habillage, c'est du niveau du théâtre, quoi. C'est... Je pouvais pas laisser cet objet qui a été acheté pour une utilité précise se retrouver dans un bureau qui fait un point de lumière, en fait. C'était... Son utilité, elle était bien précise. Donc, comme elle n'est pas arrivée sur le plateau, du coup, je l'ai gardée là.
Dans l'atelier.
Dans l'atelier. C'est un point de lumière que je mets souvent quand je suis toute seule, surtout le soir. Quand je vais au plateau, j'allume juste ce point de lumière.
Ça t'apaise, ça fait que... Enfin...
Oui. Et quand je reviens du plateau, qui est aussi un endroit très sombre, donc il faut quand même que l'œil se réhabitue à la lumière aussi. Bah, du coup, ce ne sont pas des néons au plafond, mais la lumière est beaucoup plus forte. Donc, quand je reviens, c'est un point lumineux beaucoup plus doux, quand même. Après, des fois, on fait des choses inconsciemment. Hein. Il y a des choses qui sont bien réfléchi de ma part, hein, mais d'autres qui sont peut-être des rituels aussi, je ne sais pas. Hein.